Bonjour et bienvenue à Pour un Québec apprenant. Ici Anne-Marie Kerouac qui sera avec vous jusqu'à 14h et qui vous retrouve comme à tous les deuxièmes mercredis du mois pour cette émission produite par CIBL en collaboration avec l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, l'ICEA. Je vous rappelle que cette série d'émissions qu'on a commencée au mois de septembre et qui va se poursuivre jusqu'en juin s'inscrit dans le cadre de la démarche que l'ICEA a entreprise pour la tenue d'un grand événement qui va avoir lieu bientôt au printemps 2013, le rendez-vous pour un Québec apprenant. Et on souligne du même coup le 10e anniversaire de la mise en place de la politique gouvernementale en éducation des adultes et en formation continue. Alors, le thème de l'émission d'aujourd'hui, un thème plutôt vaste et qu'on pourrait résumer à l'éducation tout au long de la vie. En fait, en 2013, on fait tous face à différents défis, que ce soit sur le plan scientifique, numérique ou tout simplement sur la façon de prendre part activement au monde qui nous entoure. Et pour éviter l'exclusion, on doit avoir et développer aussi des outils nécessaires pour comprendre et s'adapter aux changements dans la société. Alors aujourd'hui, on abordera le côté scientifique en fin d'émission avec le rédacteur en chef du magazine Québec Science, M. Raymond Lemieux. La science qui fait partie de notre vie quotidienne et toujours se questionner, c'est le premier pas vers l'apprentissage. On en discutera donc en fin d'émission. Également, en deuxième partie, on parlera du milieu de vie, des moyens qu'on peut prendre pour s'approprier son milieu de vie en s'impliquant, entre autres, dans des projets communautaires ou en développant un sentiment d'appartenance en évoluant dans un milieu coopératif. Pour en parler, je recevrai Laurence Fauteux, qui est collaboratrice au programme d'agriculture urbaine chez Alternative, et Francine Némé, qui est la directrice générale de la Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du Montréal métropolitain, la FECHIM. Et au cours de la première demi-heure, on parlera de nouvelles technologies, ces technologies qu'on doit apprivoiser si on veut faire partie intégrante de la société. C'est Alexandre Enkerly, chercheur associé à Communautic, un organisme communautaire qui a pour mission de soutenir la participation citoyenne en favorisant la maîtrise de l'information, l'appropriation des technologies de l'information et des communications et aussi contribution à leur développement. Et pour ouvrir l'émission, pour bien comprendre ce que ça nous prend pour être inclus dans la société, on parlera de compétences essentielles avec Chantal Ouellette, qui est chercheure à l'UQAM. Alors c'est parti pour un Québec apprenant. Alors, l'émission d'aujourd'hui tournera autour de cette notion des outils nécessaires pour faire face aux défis de la vie moderne. Et quand on parle d'outils, on parle d'abord de compétences essentielles qui vont, bien sûr, bien au-delà de la lecture, de l'écriture et du calcul. Je vous propose une entrevue pour commencer avec l'une des grandes spécialistes des compétences essentielles, Mme Chantal Ouellette, qui est chercheure à l'UQAM au département d'éducation et formation spécialisée, section adaptation scolaire et sociale. Les outils, c'est aussi des compétences, on peut dire, des compétences essentielles. Quand on pense à ça, souvent on pense savoir lire, savoir écrire, mais il y en a beaucoup d'autres là, pour bien comprendre. Et ça serait quoi, selon vous, les compétences essentielles premières là, qu'on doit posséder comme citoyen pour bien faire partie de son monde?
En fait, toute la question des compétences a été vraiment étudiée, analysée sous tout leur angle par différentes organisations, différentes institutions aussi depuis les années 90, on dirait. Et il y a différents découpages aussi de ces compétences-là et elles portent des noms différents aussi selon l'organisation ou l'institution qui l'a étudiée. On pourrait parler, par exemple, de l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et développement économique dans les fins des années 90, qui parle de compétences clés, OK? Donc, les compétences clés, en fait, de catégories de compétences clés. Et pour eux, ils ont identifié trois grandes catégories de compétences clés qui sont, par exemple, se servir d'outils de manière interactive. Et ce qu'ils entendent par outils, c'est la langue, la capacité de communiquer ou encore de se servir de technologie, par exemple.
Surtout aujourd'hui, dans notre monde, on peut plus vivre sans technologie.
Absolument. Et on parle aussi on parle aussi tout simplement de communication orale. Ici, de la langue.
D'interaction finalement avec les autres.
Absolument, ouais. Et ça nous amène à la deuxième catégorie qui est justement d'interagir avec des groupes et des groupes hétérogènes aussi parce que dans notre société, on retrouve différents types de personnes, de différentes cultures, etc. Donc, ça implique aussi une capacité de s'adapter à différentes personnes, différents individus et à différents contextes. Et la troisième grande catégorie, c'est la capacité d'agir de façon autonome et de prendre ses responsabilités. Et ce qui lie, en fait, ces trois grandes catégories-là, c'est aussi la façon d'agir de manière réflexive, d'être capable de réfléchir sur sa vie et sur ses capacités-là dans la société. Donc là, ici, on est vraiment à un niveau un petit peu plus méga ou supra.
Des objectifs ultimes aussi, savoir réfléchir. C'est quand même un titre assez gros aussi.
Oui. Et ensuite, on arrive à... Je vais vous parler aussi d'un autre découpage des compétences qui a été fait au niveau canadien principalement. Et c'est par RHDCC, qui est Ressources humaines, Développement des ressources humaines et des compétences Canada. Donc, c'est beaucoup de recherches et de travaux qui ont été réalisés dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. Et eux ont parlé plutôt de compétences essentielles. Donc, voyez-vous, on passe du terme compétences clés à compétences essentielles.
Pour décrire sensiblement la même chose.
Oui, tout à fait. Mais bon, c'est sûr qu'à l'intérieur des compétences essentielles, eux considèrent qu'il en existe 9. Et il y en a en fait 4 qui sont reliés à l'alphabétisation comme vous en parliez tout à l'heure. Donc c'est sûr que on a les 4 de base qu'on appelle aussi dans d'autres lieux compétences de base, donc la capacité de lire, de rédiger, d'utiliser des documents et de calculer. Mais à ces 4 compétences là s'ajoute la capacité de raisonnement, donc la capacité de réfléchir, de résoudre des problèmes dans différents contextes, la communication orale qui revient encore. On a aussi le travail d'équipe, donc la capacité d'interagir avec d'autres personnes, la capacité de continuer de se former. Donc, de continuer d'apprendre et d'apprendre
à apprendre. Donc, la curiosité aussi d'aller plus loin. Ouais.
De s'inscrire dans une démarche de formation continue. Et il y a l'informatique aussi qui revient. Donc, voyez-vous, hein, on sort là des compétences d'alphabétisation là, avec ces 5 autres compétences-là qui sont appelées compétences essentielles du côté de RHDCC et... Le concept de compétences essentielles, il est beaucoup utilisé dans le Canada, anglais et français à l'heure actuelle.
Et quel serait l'état de ces compétences, si on parle de... Est-ce que les Canadiens, en général, maîtrisent ces compétences essentielles ou quelle est la proportion de gens qui pourraient avoir des lacunes dans une ou l'autre de ces compétences?
Oh, ça, c'est un bien... Ça, c'est une grosse question. Il existe des tests. Il y a quand même des tests qui ont été conçus pour identifier où est-ce que les personnes se situent par rapport à différents niveaux à l'intérieur de ces compétences-là. Et aussi, il y a même eu des profils qui ont été établis, bon, par rapport à des emplois, oui, mais aussi par rapport, par exemple, pour faire telle et telle profession ou métier, on peut avoir besoin de travail d'équipe, disons, de niveau 2 et de capacité de raisonnement de niveau 4.
Oui. Ça diffère d'une catégorie de profession à l'autre.
Donc là, on n'a pas idée, à ma connaissance, de où les Canadiens se situent par rapport à ces 5 compétences-là qui ne sont pas nécessairement les compétences d'alphabétisation.
Plus facile à cerner peut-être ces compétences, ces 4-là, à savoir
tout à fait,
à évaluer.
Mais ces autres compétences-là sont vraiment considérées comme très 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 importantes aussi. C'est sûr en milieu de travail, mais aussi pour tout ce qui concerne la participation citoyenne.
Et justement, c'est dont on parle aujourd'hui C'est d'abord ça, on vit d'abord en société avant de travailler, avant de faire autre chose. C'est la majeure partie de notre temps, on le passe en faisant des activités, que ce soit à la maison, des activités sportives, toujours en interaction avec les gens.
Absolument, absolument. Et là-dessus, il y a un autre découpage des compétences.
Ah oui, encore une fois.
Oui, par l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes qui vient de sortir un référentiel en 2012 et où on parle de 22 compétences génériques maintenant. Mais vous allez voir qu'elles recoupent beaucoup celles dont on vient de
parler. À chaque fois, on agrandit le...
Tout à fait. Et ça se précise encore plus. Donc ici, on parle de faire confiance aux autres, de la confiance en soi, de la créativité. On parle aussi de débrouillardise, d'esprit d'équipe et d'esprit d'initiative. Donc, vous voyez, ça revient. On parle aussi de la facilité à apprendre de ses expériences. Ça recoupe ce qu'on disait tout à l'heure, la capacité une capacité de formation continue. On a la facilité à communiquer, à résoudre des problèmes, à se fixer des objectifs, la facilité d'adaptation et de persuasion. Donc, on est encore vraiment dans les capacités de communication et de relations interpersonnelles. On a aussi le leadership, la maîtrise de soi et différents sens, comme le sens de l'observation, de l'organisation, des relations interpersonnelles, justement, le sens des responsabilités, le sens du travail bien fait. Donc, ça vous donne une idée là, des 22 compétences génériques. Oui.
Peut-être définir un peu plus ce qu'on définissait là, au Canada avec les 9 compétences. On va dans des sous-catégories.
Absolument.
Là.
En fait, c'est comme si les 5 compétences plus essentielles et plus peut-être même génériques, c'est comme si on les avait ici définies de façon encore plus précise là, du côté de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes.
Donc, qui collabore à cette émission,
absolument.
Justement, pour un Québec apprenant. Donc là, ça met la table pour cette émission d'aujourd'hui où on va parler des outils qui sont nécessaires. Donc, pour bien prendre part, bien comprendre le monde qui nous entoure et y participer activement. Donc, on va avec au moins la définition de toutes ces compétences essentielles, compétences qui nous aident à interagir avec les autres. On va pouvoir mieux comprendre les segments qui suivent l'émission. Chantal Ouellet, chercheure à l'UQAM, merci beaucoup.
Merci.
Je vais bâtir une maison, je vais bâtir une maison, je vais bâtir une maison. Pour faire un
passé pour un Québec apprenant qui se poursuit sur les ondes de CIBL. Et on vient tout juste de parler à l'instant de compétences essentielles avec Chantal Ouellet. Et dans ces compétences essentielles, il y a bien sûr la capacité de travailler avec les nouvelles technologies. Et on peut appeler ça l'inclusion numérique. Et un des organismes à Montréal qui travaille en ce sens, c'est Communautique, qui est un organisme communautaire qui s'est donné comme mission de soutenir la participation citoyenne en favorisant la maîtrise de l'information, l'appropriation des technologies de l'information et des communications et aussi la contribution à leur développement. Et pour en apprendre plus sur cette inclusion numérique, j'accueille Alexandre Inkerly, qui est chercheur associé à Communautique. Bonjour, Monsieur Inkerly.
Bonjour, merci.
Donc, on parle d'inclusion numérique à l'instant. Et si on veut inclure numériquement les gens, les Montréalais, il faut d'abord donner plus que l'accès aux technologies.
C'est ça. On s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur l'accès. Le programme de brancher les familles a eu bien des effets et tout ça. Alors, les gens sont capables d'aller sur Internet, même si c'est en dehors de la maison. Mais par contre, pour qu'ils soient vraiment inclus, qu'ils soient pas exclus, ben il faut prendre toutes sortes de moyens, y compris sur l'apprentissage, sur l'appropriation de la technologie elle-même.
De décoder un peu, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil qui est devant nous, qui est un outil puissant, mais si on l'utilise mal, on est mal orienté, là. On va l'utiliser au minimum de sa capacité.
C'est ça, c'est pour que les gens puissent apprivoiser de la technologie, que ça soit pas trop étranger, mais aussi qu'ils puissent en prendre possession puis faire ce qu'ils veulent avec. C'est bien beau de dire « Ah, il faut apprendre Word ou Excel avant de pouvoir avoir un emploi », mais c'est complètement autre chose de dire « Ben, pour tel problème, tu peux le résoudre avec tel outil, puis il faut déjà les connaître, quels outils sont disponibles, mais aussi de faire en sorte que l'apprentissage autour de la technologie est pas seulement de l'utiliser d'une façon que quelqu'un d'autre utiliserait. »
Et comment ça fonctionne? Parce que là, on sait qu'il y a des gens qui... Bon, aujourd'hui, il faut savoir se servir d'un ordinateur, là. Faut le dire pour que ce soit pour un emploi ou dans la vie de tous les jours. Mais pour ceux qui ont encore de la difficulté à apprivoiser cette machine, comment ça se passe? Il y a des étapes précises quand même à franchir pour y aller tranquillement avec l'apprivoisement?
Bien, un des gros problèmes, c'est en fait la peur de la technologie. Les gens ont peur de briser un ordinateur, ont peur de causer un problème. Et puis, ça cause un certain effet, entre autres, que les gens explorent moins. Pour apprivoiser la technologie, il faut l'explorer, puis il faut faire son apprentissage soi-même, pas simplement apprendre dans l'abstrait voici comment faire telle chose, mais voir qu'est-ce qui est disponible et tout ça. Puis évidemment, il y a une certaine question du temps de contact avec les outils, mais c'est pas surtout ça, c'est plus de savoir qu'est-ce qui est disponible et puis de passer par-dessus certaines peurs, puis aussi de se dire, en fait, ça arrive très, très souvent à des gens d'un certain âge ou souvent avec des femmes ou des gens de différents groupes sociaux qui vont dire « Ah oui, mais je suis pas bonne. Je suis pas capable d'utiliser la technologie. »
Tout de suite, en partant, il y a un certain blocage. Là, on se dit « Non, c'est pas pour moi, je suis pas capable de comprendre. »
Puis on les met devant un ordinateur, puis on les laisse se débrouiller, puis après 10 minutes, elles sont capables de faire toutes sortes de choses que des gens qui sont en face d'un ordinateur à 8 heures par jour sont pas capables de faire.
Donc, ça développe une confiance en soi, là aussi, par la bande, pour se faire confiant et c'est ça d'aller plus loin que la peur dont vous parliez. Mm-hmm. Et vous travaillez sur des projets spécifiques aussi pour amener la technologie, là, l'amener, l'apprivoiser. Vous travaillez sur... Pouvez-vous nous donner quelques exemples de projets sur lesquels vous travaillez ou avez travaillé?
Ben, en fait, Communautique, en général, travaille sur plusieurs projets, entre autres en recherche, mais aussi en formation. Alors, le gros projet de formation, c'est qu'il y a des centres d'accès communautaire Internet, des CACI, partout à travers Montréal. Il y en a une quarantaine. Il y a même une carte qui les répertorie avec les heures d'ouverture et tout ça. Donc, les gens peuvent aller là pour utiliser des ordinateurs. Mais il y a des animatrices et des animateurs qui sont sur place, qui vont donner une formation, mais surtout supporter des projets. Alors, on s'est rendu compte qu'il y a quelques années, c'était vraiment de donner une formation de base et puis d'accompagner la personne dans son approche de l'ordinateur. Mais en ce moment, c'est plutôt de travailler sur les projets que les gens ont. Alors, au départ, c'était peut-être d'enseigner comment faire son CV pour envoyer, faire une demande d'emploi ou quelque chose comme ça, ou comment remplir des formulaires gouvernementaux, ce qui est un très, très gros problème parce qu'ils sont tous en ligne maintenant.
Oui.
Et de plus en plus, c'est sur des projets, ça peut être une mère qui fait des couvertures d'albums pour son fils qui est musicien et qui veut se lancer en tant que musicien professionnel, ou ça peut être des choses de toutes sortes par rapport à l'artisanat, à créer des objets, à même ouvrir une petite entreprise sur Internet ou quelque chose comme ça, créer un site web, des trucs comme ça. Et ça dépend des besoins des gens, c'est vraiment par rapport des projets.
Donc, les gens proposent des projets, c'est dire, j'aimerais être capable de faire tel truc, pouvez-vous m'aider là-dedans?
C'est ça. Alors, c'est non seulement de recevoir de l'aide, mais d'avoir une espèce de support, un encadrement pour pouvoir mener le projet à terme, puis de voir, ah oui, ben justement, il y a telle chose qui est disponible. Si tu veux créer un site web, il y a toutes sortes d'outils qui sont disponibles, qui sont gratuits, qui sont faciles à utiliser, c'est facile à faire. Mais maintenant, quel genre de site tu veux faire, pour quelles raisons? Bon, ben c'est une question quand même assez complexe.
Et dans les CACI, vous parliez des CACI, donc ces centres d'accès à Internet, c'est essentiellement sur l'île de Montréal?
Ben,
il y en a ailleurs, partout en province?
Oui, il y en a ailleurs au Québec, mais il y en a beaucoup, ceux qui sont affiliés à la communauté, qui sont surtout à Montréal, je pense une quarantaine sur l'île de Montréal et ailleurs en province, je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Et ils sont souvent dans des centres d'accès, dans centres communautaires ou parfois dans des bibliothèques. Ailleurs dans le monde, c'est souvent dans des bibliothèques, comme en France, c'est des espaces publics numériques qui sont souvent dans des bibliothèques. Ici, c'est plus dans des centres communautaires, des centres de loisirs ou des trucs comme ça, même le Resto Pop, au Chic Resto Pop.
Et la technologie dans nos vies, on sait que ça a pris une ampleur incroyable depuis à peine quelques années. Ça va changer, on s'imagine bien, au cours des prochaines années aussi. Quel serait à peu près le changement qu'on devrait voir arriver là, au cours des prochaines années?
Évidemment, c'est difficile à prédire, mais il y a beaucoup de gens qui essayent de proposer une version du futur, le monde qu'ils veulent voir. Et souvent, c'est des gens qui ont les moyens de le faire changer, ce futur-là. C'est souvent des ingénieurs, c'est souvent des gens qui ont vraiment la pleine possession de la technologie. Et ils voient un monde qui est très, 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 très technologique, qui est même dépendant de la technologie. On est dépendant d'un crayon quand on est étudiant, ou même à l'école primaire. Ben, on est dépendant de plus en plus de toute la technologie qu'on a. C'est quelque chose qui est assez normal. On dépend des livres, on dépend de toutes sortes de choses. Mais cette dépendance-là continue à s'accroître. Puis en même temps, ce qu'on voit depuis plusieurs années, c'est une démocratisation ou quelque chose comme ça, que les citoyens ont de plus en plus accès aux outils. Mais ce qu'on n'a pas vu encore beaucoup, puis ce qu'on prévoit, puis ceux avec qui je travaille ont tendance à vouloir ça, c'est une pleine possession des moyens, où vraiment c'est même les citoyens qui décident comment créer les outils. C'est quelque chose qui a un potentiel extraordinaire, que plutôt de dire une compagnie va créer un outil parce qu'ils savent qu'il y a un marché pour ça, c'est vraiment des gens qui disent je veux répondre à un problème que j'ai, puis ils vont créer une technologie juste pour ça.
Donc ça viendrait plus, comme vous dites, seulement des ingénieurs ou des gens, là, des penseurs, des scientifiques, ça viendrait de la base des gens qui utilisent la technologie comme ça tous les jours, qui ont pas nécessairement... Oui, du vrai monde. Pas que les scientifiques sont pas du vrai monde, mais bon, des gens qui pour un besoin spécifique seraient prêts à inventer, mais il faut qu'il y ait les ressources quand même, ou pour créer un logiciel ou un programme spécifique.
Mais ces ressources-là sont de plus en plus présentes, sont de plus en plus disponibles. Communautic, entre autres, un Fab Lab, qui est un atelier de fabrication. C'est-à-dire que les gens vont sur place pour utiliser une certaine machinerie qui est assez sophistiquée, mais qui coûte pas très, très cher. On peut créer des objets en trois dimensions, vraiment des objets avec une imprimante 3D, en fait, avec une imprimante en trois dimensions. Ça peut être pour remplacer une pièce de sécheuse. Ça, c'est l'exemple qu'on utilise toujours, mais c'est vrai, ça peut se faire plutôt que l'importer.
Ça se fait déjà, là.
Ouais, tout à fait. Alors, plutôt que l'importer de Chine, on peut la faire soi-même. Puis si on a une idée, je connais plusieurs personnes qui ont des idées géniales, mais qui ne pourront jamais l'implémenter parce qu'ils se disent « Ah, j'ai pas les connaissances techniques.
Ouais. »
Mais là, il y a des gens sur place à Ecofab, qui est le Fab Lab de Communautic. Il y a des gens sur place qui vont donner de la compétence, d'expertise, mais qui aussi vont accompagner un projet comme ça de développer toutes sortes de choses. Là, ils font un système d'irrigation des sols dans un jardin personnel, là, puis sont dans un gros projet là-dessus.
Donc, pour leur maison, ils se lancent dans cette création-là. Et vous les accompagnez ou il y a des gens qui vont les accompagner tout au long du projet?
C'est ça, il y a des gens qui les... C'est vraiment un projet qui est basé au Ecofab, donc E-C-H-O-F-A-B, qui est le Fab Lab de Communautic. Et c'est un projet qui est né là, de la base. C'est pas d'en haut que ça vient.
Ouais.
C'est vraiment les gens qui ont eu cette idée-là. Et puis, ils ont des supports techniques par des gens qui sont attirés par ça, pour pouvoir jouer avec la technologie et tout ça. Des gens qui sont assez experts en technologie, qui accompagnent d'autres personnes qui ont des idées géniales.
Donc, la technologie, il faut en faire partie. On a comme... Pas le choix. Est-ce que pour vous, c'est encore possible de vivre à l'extérieur de la technologie en 2013?
Oui, oui, mais le choix est souvent détourné dans le sens que les gens se disent « Ah, si j'utilise pas la technologie, c'est parce que je l'ai choisi. » Souvent, c'est qu'ils sont encore plus victimes.
Mm.
Mais quelqu'un qui a vraiment tellement maîtrisé la technologie est capable de ne pas s'en avoir besoin.
Donc, un choix... réfléchi, conscient, de se dire « Je connais, mais je ne veux pas trop y adhérer. »
La pleine maîtrise, c'est au point où on n'a plus besoin des outils. Parce qu'on peut faire les choses soi-même ou quoi que ce soit. Ou inventer son propre outil, ça, c'est une maîtrise extraordinaire. Alors, c'est vraiment de prendre la pleine possession des moyens, puis d'être vraiment autonome, puis pas demander à une compagnie privée ou des grands organismes, des grandes institutions de faire les choses pour nous.
Donc, il faut quand même y aller étape par étape. Ceux qui veulent apprivoiser la technologie peuvent aller donc vous consulter chez Communautique ou aller chercher dans les CACI. Donc, on rappelle les CACI, qui est les centres d'accès communautaire à Internet qu'on retrouve un peu partout. Est-ce qu'il y a un site Internet où on peut aller trouver des renseignements?
Ben, entre autres, pour Communautique, donc le site, c'est communautique.qc.ca. Donc, Communautique, c'est comme communauté avec IQUE. Et puis, pour la carte des CACI, l'URL, c'est lar.me/CACI, tout en minuscules.
lar.me/CACI. Mais merci beaucoup, Alexandre Ankerly. Vous êtes chercheur associé à Communautique. Merci d'être passé nous voir.
Merci.